France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les épeint? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les arts déco ont 100 ans. Lorsque s'achevait en novembre 1925 l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, ce que ces 16 millions de visiteurs y avaient vu s'apprêtait à conquérir les villes et les intérieurs d'Europe et d'ailleurs. Alors, si vous êtes à Nancy, allez à l'exposition du Musée des Beaux-Arts Nancy 1925, une expérience de la vie moderne. Si vous passez par Houston, Texas, courez voir Tamara de Lampica, qui fit de l'art déco en peinture. Et si vous habitez Bruxelles, Strasbourg, Reims, Le Havre, Lille ou Saint-Quentin, il y a aussi une exposition d'art déco pour vous. À Limoges, par exemple, c'est au Musée des Beaux-Arts et cela s'appelle Faire moderne, autour de 1925, Limoges en art déco. Quant aux Parisiens, ils ont le choix entre la grande exposition du Musée des Arts Décoratifs, où l'on peut notamment entrer dans un wagon de l'Orient Express, et la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où l'on embarque en compagnie des architectes des pavillons eux-mêmes. Ah oui, j'oubliais, que vous soyez ici ou ailleurs, si vous êtes devant votre poste de radio, eh bien, écoutez voir, on en parle maintenant de l'Art Déco. Écoutez voir, ou allons-y voir, j'avais hésité entre ces deux titres d'ailleurs. En tout cas, ce qu'il y avait à voir à Paris, c'était en 1925 le grand spectacle de la modernité. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? On en parle avec Bénédicte Mayer et Jérémy Serment, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Manuel Charpie. Car si l'art déco est partout aujourd'hui, en 1925, les architectes devaient l'inventer. Ils étaient, comme le dit Charlotte Perriand, littéralement, au pied du mur.
Nous n'avions aucune idée rationnelle encore des choses, tout au moins on ne nous l'enseignait pas. Nous étions très en retard. Nous avons exposé à cette exposition internationale de 1925 d'art décoratif, dans la ligne absolue de l'art décoratif. Nous étions devant un mur. Nous ne savions pas ce qu'il y avait derrière ce mur. Nous étions vraiment en dehors du temps moderne, des temps modernes, que beaucoup d'autres préfiguraient, les peintres, les musiciens, les sociologues, les sculpteurs, enfin. Mais tout cela était en fait, ne nous était pas enseigné, ne nous était pas montré, et était très loin de nous.
Charlotte Perriand, donc, c'était dans l'art de vivre en 1961. Jérémy Serment, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université d'Artois. Vous enseignez l'histoire des arts décoratifs et du design. Vous avez publié en 2012 chez Marais Martin un livre issu de votre thèse, Le papier peint, art nouveau, création, production, diffusion, avant de poursuivre vos recherches sur les relations entre art et industrie, aussi bien du côté des dessinateurs industriels que des décors des boutiques, mais aussi l'aménagement des salles de culture. Physique. En cette année du centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, qui nous réunit aujourd'hui, vous avez co-dirigé, avec Jean-Baptiste Minart, le dernier numéro d'In Situ, la revue des patrimoines, qui revient sur cet événement et plus largement sur les contours de ce mouvement d'art déco, dont évidemment la capitale n'était pas que Paris. Bah, vous êtes à Arras, par exemple, il y a plein de choses art déco à voir à Arras.
Oui, alors effectivement, l'art déco, c'est ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est que l'art déco est partout. Alors, il y a eu certaines villes en particulier qui, du fait de la reconstruction, on a reconstruit hein, dans le goût qui était celui de l'époque, et donc on a un patrimoine d'art déco assez important de ce fait.
Et à Arras
en particulier. Oui, évidemment.
Bonjour Bénédicte Maillère.
Bonjour.
Vous êtes attachée de conservation au département des peintures murales et des vitraux de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où vous avez été co-commissaire de plusieurs expositions, parmi lesquelles l'architecte portrait et cliché en 2017, ou encore Art déco France-Amérique du Nord en 2022, et bien sûr, vous êtes la commissaire de l'actuelle exposition Paris 2025, l'art déco et ses architectes, que l'on peut voir à la Cité de l'Architecture jusqu'au 29 mars 2026, et qui... au fond, c'est l'expo sur l'expo, hein, c'est ça ?
L'expo sur l'expo. L'idée était de présenter aux visiteurs de 2025 ce qu'a été cet événement majeur de 1925 en leur proposant une balade à travers les pavillons qui avaient été présentés en 1925.
C'est d'autant plus important qu'on a là essentiellement, j'irais, un patrimoine de papier parce que les grandes expositions universelles de Paris, voilà, il reste un certain nombre de choses, parfois encombrantes, comme le Trocadéro ou la Tour Eiffel, mais là, non.
C'est la seule, l'unique exposition internationale ou universelle pour laquelle il ne reste rien d'un point de vue architectural ou d'aménagement urbain. Donc c'était le défi aussi de présenter ce qu'ont été ces modernités architecturales au cœur de la ville, à travers des films, des photographies, des dessins.
C'est ça. Alors racontez-nous, parce que c'était très impressionnant quand même cette
exposition. C'était très impressionnant, c'était au cœur de Paris, donc sur l'esplanade des Invalides. La porte d'honneur accueillait les visiteurs entre le Grand et le Petit Palais. Puis après, ils avaient devant eux le pont Alexandre III qui était garni d'une rue des boutiques, imaginée par Maurice Dufresne.
Ça, on va en parler. Le pont Alexandre III, c'est justement ce qu'avait laissé l'exposition universelle de 1900.
Tout à fait, et qui servira ensuite pour d'autres expositions universelles, comme celle de 37, sur lesquelles il y aura une voie de la lumière ensuite.
Donc il y avait différents pavillons, comment ça se passait, Jérémy ?
Alors il y avait un grand nombre de pavillons, il y avait aussi un grand nombre de participations. Évidemment, la France et tous ses savoir-faire, tous ses architectes, tous ses décorateurs étaient à l'honneur, mais également un grand nombre de participations étrangères qui n'ont pas d'ailleurs été toutes étudiées aujourd'hui. Et c'est particulièrement, essentiellement l'Europe, l'Europe et les colonies.
Trois pays d'Asie.
Oui, exactement.
Tout à fait. Le Japon, la Chine et la Turquie.
Alors bon, on va parler d'architecture, on va essayer de donner à voir certains pavillons. Tenez, je vous en fais passer un et dites-moi ce que c'est.
Le plus emblématique de l'exposition.
Oui, alors l'un des plus emblématiques, tout du moins l'un de ceux peut-être que le public a parfois en tête, c'est l'hôtel du collectionneur qui a été construit par l'architecte Pierre Patou, mais qui était en fait c'était le programme en fait du grand décorateur art déco Jacques-Émile Roulman. Et donc Jacques-Émile Roulman, avec ce pavillon, il fait vraiment office, on va dire, de directeur artistique, d'ensemblier, puisqu'il s'entoure de tout un regroupement d'artistes, les sculpteurs Joseph Bernard, Janio. Et on a ici un pavillon qui tend dans son inspiration classique, mais une inspiration classique qui se veut modernisée, qui puise notamment dans les styles de la fin du XVIIIe siècle, en fait dans la magnificence, comme on dit alors, une certaine grandiloquence, un certain luxe dans l'aménagement intérieur, incarne véritablement l'idée que l'on se fait aujourd'hui de l'art déco, même si en fait l'art déco c'est beaucoup plus compliqué que cela.
Évidemment. Mais alors là, Bénédicte Maillère, on peut dire, bon ben voilà, de l'art nouveau à l'art déco, hein, l'art nouveau 1900-1910, l'art déco jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en somme, de l'ornement, de la volute à la géométrie. Là, je parle vraiment de choses qu'on a dans l'œil, le plus simple. Mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qui impressionne.
Ce pavillon a quand même un côté très géométrique, notamment avec cette toiture en gradin, avec des angles qui sont assez marqués. Alors là, Pierre Patou répondait à une exigence des organisateurs de l'exposition, puisque les toitures sur les Esplanade des Invalides ne devait pas dépasser 45 degrés. Et donc, pour trucher cette chose, en fait, il a imaginé cette toiture en gradin qui donne une certaine prestance au bâtiment et qui également rompt l'arrondi de cette avancée qui fait extrêmement penser à l'hôtel de Salm, qui est aujourd'hui le musée de la Légion d'honneur, construit à la fin du 18e en face du musée d'Orsay, et qui donne une certaine élégance dynamique à ce pavillon.
Et puis l'autre pavillon vraiment emblématique de l'exposition de 1925.
Alors un autre pavillon emblématique qu'on a ici, c'est le pavillon des renseignements et du tourisme par Robert Mallet-Stevens.
Oui.
Et effectivement, qui nous montre une inspiration assez différente, on peut le dire, beaucoup plus... on dirait moderniste aujourd'hui. Vous savez, Robert Mallet Stevens incarne davantage un modernisme fonctionnaliste, bien qu'il soit encore membre de la SAD, la Société des artistes décorateurs, dont on reparlera peut-être, mais il sera également par la suite président de l'Union des artistes modernes, hein, ces artistes dissidents.
Et donc là, ce qu'on voit, c'est d'abord le clocher, enfin l'énorme tour. Hein.
L'énorme tour, évidemment. Mètres. Et je crois que si l'on compare ce pavillon, effectivement, à celui de Ruhlmann dont on parlait juste avant, on a moins cette inspiration classique, traditionnelle. On est vraiment strictement dans la géométrie et, on va dire, dans un certain rejet, quoi que ce soit discutable, de toute ornementation.
Et puis aussi, ce que vous disiez, hein, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, évidemment une architecture d'auteur, mais collective, parce que là,
il y a les vitraux, il y a les bas-reliefs des frères Martel à l'intérieur, évidemment, il y a tout l'aménagement intérieur, et Robert Mallet-Stevens fait appel à Francis Jourdain pour les aménagements intérieurs, donc c'était un pavillon consacré, effectivement, à renseigner les visiteurs de l'exposition sur les possibilités d'excursion à travers la France, que ce soit en train mais également en bus. Et donc il y avait des guichets qui étaient aménagés, oui. Et c'était également Pierre Charot qui avait imaginé l'éclairage intérieur. Donc ça c'est important parce que...
Très important l'éclairage, hein, l'électricité ça a quelques années, mais là il y en a partout.
Il y en a absolument partout.
L'exposition est ouverte la nuit, enfin en tout cas
et
tard.
Et c'est quasiment une autre exposition qu'on visite la nuit puisque les architectes des pavillons vont vraiment imaginer leur architecture avec l'éclairage, en cachant l'éclairage et en donnant du coup ces pavillons très scintillants la nuit, en utilisant le néon qui vient d'être inventé. Et ce pavillon des renseignements et du tourisme montre bien que Robert Mallet-Stevens est encore dans cet esprit art déco parce qu'il travaille en équipe. Et ça, même s'il livre un bâtiment qu'on pourrait appeler quasiment une architecture cubiste, certains le qualifient ainsi, il travaille avec d'autres créateurs, et c'est vraiment l'esprit art déco qui est incarné ici.
On va en voir partout, Jérémy Sermon, de ce type. Alors, peut-être pas aussi spectaculaire et aussi beau, mais enfin, du point de vue, justement, même, y compris des banlieues, enfin, de la première ceinture.
L'architecture art déco, alors, celle-ci, mais aussi celle-là. Ouais. Également celle de Ruhlmann. Hein, je veux dire que cette esthétique...
Ruhlmann, on peut penser, pour que nos oui. auditrices et auditeurs l'aient dans l'œil, au Grand Rex, à justement ces grands établissements de spectacle.
Par exemple, mais c'est vrai que si on reste par exemple sur l'exemple de Robert Mallet-Stevens, quels sont les deux grands bâtiments emblématiques de l'œuvre de Robert Mallet-Stevens? C'est la Villa Noailles à Hyères et c'est la Villa Cavrois à Croix, non loin de Roubaix. Hein, donc là, effectivement, on est en dehors de Paris, et je pense que ça montre bien comment ces esthétiques modernes, comme on les appelle à l'époque, se sont diffusées sur tout le territoire, ne serait-ce qu'avec l'œuvre de l'un de ses plus grands représentants en matière d'architecture.
Bon, alors on a le décor, mais maintenant il nous faut la bande son. Alors 1925, c'est Joséphine Baker.
Many long, long years ago, I left my own little home, Alabama, way down south, left to the night.
Comment Joséphine Baker se retrouve sur la scène des Champs-Élysées en 1925?
Eh bien, elle a été recrutée à New York par Caroline Dudley, qui était une américaine francophile. Caroline Dudley a eu l'idée donc de faire un spectacle uniquement avec des Noirs américains, et ça s'appellerait La Revue Nègre, selon le terme de l'époque, qui n'était absolument pas péjoratif, je le précise. Aujourd'hui, ça a changé, bien sûr, mais donc à l'époque, on parlait de l'art nègre, on parlait de la négritude, enfin, c'était même noble d'une certaine façon. Il y a les esthètes qui adoraient l'art nègre. Donc, on a parlé de cette revue nègre, et donc, il n'était composé que d'artistes américains venus de Broadway, parmi lesquels se trouvait une jeune danseuse qui s'appelait Joséphine Baker, et également une autre danseuse qui s'appelait Maud de Forest, également un acteur qui s'appelait Joey Alex, et puis des musiciens, parmi lesquels le jeune clarinettiste Sidney Bechet. Donc vous voyez que certains sont devenus très très célèbres par la suite. Donc il y avait beaucoup de Charleston dans cette revue, c'était une danse nouvelle pour les Parisiens, et la jeune Joséphine était vraiment une attraction, je dirais. Et on l'a mise en avant, parce qu'au départ, elle était une des danseuses du spectacle. Et on a repéré sa personnalité. C'est Jacques Charles qui a repéré sa personnalité, qui était un metteur en scène de revue formidable à Paris, qu'on est allé chercher pour améliorer un petit peu le spectacle. Et lui, il a tout de suite flashé sur Joséphine. Et donc, c'est elle qui a été mise en avant. Et vous savez que sur l'affiche du spectacle dessinée par Paul Colin, on voit une danseuse au milieu, c'est elle.
Bon, c'est pour donner l'ambiance générale, mais à l'exposition de 1925, elle était plus solennelle, l'ambiance. Hein. Il y avait pas, il y avait effectivement, du point de vue spectaculaire, peu de choses festives, non?
Ouais, je crois qu'il y a des fêtes qui étaient organisées.
Il y a des fêtes qui étaient organisées, notamment liées aux régions qui étaient représentées ou aux villes qui étaient représentées. Il y avait également un théâtre à l'exposition que l'on doit à Auguste Perret et André Granet, dans lequel il y a eu des pièces de théâtre. Alors Perret a regretté que les pièces données dans son théâtre n'étaient pas assez modernes et trop classiques, trop théâtre à l'italienne. Mais effectivement, Joséphine arrive à la fin de l'exposition et elle n'est pas présente. Et il n'y a pas cette folie, ce grain de folie des années folles présentes à l'exposition.
Mais on est quand même dans les années folles, effectivement. Et on est dans ce moment, Jérémy Sermant, vous l'avez dit, vous avez parlé des ensembliers, vous avez parlé de ce travail d'équipe, où justement l'intérieur et l'extérieur, l'architecture et ce qu'on appellerait aujourd'hui le design ou l'art décoratif, eh bien, sont à ce moment-là pleinement intégrés, articulés.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, et vous l'avez rappelé, l'intitulé exact de l'exposition, c'est l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, puisque les arts décoratifs se déclinent également dans ce lien entre art et industrie à l'époque. Et donc, c'est là cette volonté première. Et c'est vrai que c'est intéressant de revenir aussi sur la genèse de cette exposition. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une exposition d'arts décoratifs modernes qui avait eu lieu à Turin en 1902. Et c'est de là dont vient également cette idée. C'est-à-dire qu'à Turin en 1902, c'est plutôt l'art nouveau. Et puis l'idée, on va vouloir faire une exposition du même type en France. On la prévoit en 1915, il y a la guerre. On reprend l'idée après la Première Guerre mondiale. Et finalement, l'exposition aura lieu en 25. Et les décorateurs, évidemment, leur style, ce style art déco, qu'on appelle art déco aujourd'hui, qui naît dans les années 1910, arrive, on pourrait dire, peut-être à maturité. En tout cas, ça va être l'apogée de ce style que l'on va trouver chez un grand nombre de grandes figures des arts décoratifs. On a cité Ruhlmann, citons Henri Rapin, Paul Follot, Maurice Dufresne. On pourrait en citer beaucoup d'autres qui sont, pour la plupart, membres de la SAD, de cette Société des artistes décorateurs, qui aura en particulier un programme qui s'intitule Une ambassade française. Et la plupart les principaux membres de cette SAD vont, André Groult, Paul Follot, ceux que j'ai cités, aménager chacun une, voire deux pièces au sein de ce grand programme.
Voilà, et ce qu'on voit dans Une ambassade française, et ce qui est aussi exposé dans votre exposition, c'est justement cette... du mobilier, du décor, enfin l'ensemble au fond d'un cadre de vie qui est proposé.
Tout à fait. En fait, l'architecte travaillait avec un ensemblier, avec des sculpteurs, avec des peintres. Et à l'ambassade française, dans une ambassade française, par exemple, Miles Stevens imagine un hall dans son style, ce qu'on appellerait aujourd'hui moderniste, et ce qui permet de donner en fait aux visiteurs une vision de tous les courants créatifs de l'époque.
Alors c'est le moment des cadeaux. On me demande souvent, tiens, Mathieu Pot-de-Bonneville, le directeur du département culture et création de Beaubourg, qui nous envoie des cartes postales, est-ce qu'il aime toujours les jeux vidéo? Ben écoutez, je crois que oui.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, je ne sais pas vous, mais moi, à cette période de l'année, je m'embrouille dans les dates. Je déchire rageusement mes chèques après les avoir datés de l'an dernier, ou j'embarrasse mes interlocuteurs par d'infinies rectifications sur le planning des mois à venir. Ça peut expliquer ma première réaction lorsque j'ai appris le 11 décembre dernier qu'un jeune studio français venait avec son premier titre de remporter pas moins de 9 récompenses lors de la cérémonie la plus prestigieuse dans le monde du jeu vidéo, le Game Awards de Los Angeles. À l'annonce du succès remporté par ce jeu, intitulé Clair Obscur Expédition 33, vendu ces derniers mois à plus de 5 millions d'exemplaires, et apprenant que le studio de Montpellier Sand Falls Interactive avait décroché le prix du jeu vidéo de l'année, je me suis demandé, de l'année? Mais de quelle année au juste? 2025? 1910? 1925? Il faut dire qu'en matière de chronologie, l'univers déployé par ce jeu a le chic pour créer le trouble. À moins qu'il n'ait le trouble pour créer le chic. Le jeu prend pour cadre une ville baptisée Lumière, la ville Lumière, vous voyez le truc, Et ces premières scènes en révèlent un paysage torturé. Immeubles haussmanniens enroulés sur eux-mêmes, arc de triomphe ouvert en deux comme un fruit trop mûr, que surplombe la haute silhouette d'une tour Eiffel recourbée façon cimetière. Le tout contemplé depuis un jardin planté de roses où l'une des personnages arbore une marinière et un foulard noué à la diable. Nous sommes en France, donc. Mais une France doublement réfractée. D'une part, le jeu se veut un hommage au genre japonais des jeux de rôle dit « tour par tour ». Genre qui, depuis la saga des Final Fantasy, a recomposé un univers visuel syncrétique, un Occident d'opérette, mêlant des références européennes avec la même tranquille désinvolture, la même parfaite indifférence à l'égard des lieux et des temps dont l'Occident a usé si longtemps à l'égard de l'Asie. Clair-obscur est donc un jeu français qui a réinventé la France depuis ce détour d'un héritage capté, rendu et globalisé à la japonaise. D'autre part, les concepteurs expliquent avoir un temps imaginé situer l'action dans un univers de style victorien, mais juger ce dernier vu et revu. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'opposer une authenticité à une autre. Le style victorien qu'ils évoquent, c'est celui dont les codes se sont fixés au tournant des années 1980, sous le nom de steampunk. Cet univers 19e, dirait-on, au sens large, de machines à vapeur, de roues dentées, de moustaches en crocs, brassant allègrement Jules Verne et Stevenson, mais puisant tout autant aux volutes des affichistes Belle Époque. Ce que tente Clair Obscur pour s'en démarquer, c'est un autre laps de temps, à la française, pourrait-on dire. Il faut toute la minutie d'un expert du genre, Julien Djoubry, dans une remarquable recension du site spécialisé Point and Think, pour distinguer les couches esthétiques entrelacées par l'univers du jeu, la manière en particulier dont s'y confrontent les volutes Art Nouveau et la géométrie Art Déco, comme le passé à l'avenir et l'antagoniste du récit aux Parisiens qui lui résistent. Ou encore la façon dont Gustave Moreau, Baudelaire et le premier surréalisme font ça et là un tour de piste. Alors on pourra juger le résultat kitsch ou s'alarmer du fait que, vu de loin ou d'ailleurs, des temps et des styles si distincts tendent à se mêler dans le brouillard d'un autre siècle. Moi je me dis que là où certains jeux vidéo sont parfois loués pour leur respect de l'histoire, celui-ci a pris le parti de piocher dans l'histoire visuelle et architecturale française pour y chercher un répertoire de formes rêveuses pour jouer avec. Je vous offre un sujet pour les fêtes, Patrick. De l'éclectisme historique comme creuset de l'imaginaire.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir et vient de nous faire aussi un cadeau, Mathieu Pot-Bonneville. La question de la diversité, elle est effectivement importante, Bénédicte Mayer, parce qu'il n'y a pas que le style, le grand style international ou qui va le devenir dont on parle, il y a aussi toute une série de styles régionaux qui sont exposés en 1925.
Qui étaient présents, effectivement. Certaines villes, par exemple, comme Roubaix-Tourcoing, choisissent d'élever un pavillon en briques avec une silhouette qui est tout à fait flamande, qu'on peut retrouver sur les grandes places de Flandre. Vous avez l'Alsace qui choisit d'édifier également une maison alsacienne traditionnelle, mais avec cette modernité architecturale qui est la géométrisation des formes et qui marque les esprits quand, par exemple, Roubaix-Tourcoing est accolé au jardin imaginé par Robert Mallet-Stevens avec les sculptures des frères Martel.
Oui, il faut dire que l'art du jardin est aussi très présent dans l'art déco. Tenez, je vous fais voir ça, Jérémy Serment, qu'est-ce que c'est ?
Alors là, c'est le bureau bibliothèque aménagé par Pierre Charot dans une ambassade française, hein, ce programme de la Société des artistes décorateurs dont on a déjà parlé. Et c'est vrai que cette ambassade française...
Elle est toujours une ambassade française, hein, c'est toujours dans cet ensemble. Hein.
Tout à fait, exactement. Elle incarne assez bien cette grande diversité esthétique qu'on peut trouver au sein même de l'exposition de manière générale, parce qu'on va y trouver à la fois le hall aménagé par Mallet Stevens, qu'évoquait Bénédicte Mayer tout à l'heure, mais aussi des intérieurs très traditionnels, ceux d'André Groult, la chambre de l'ambassadrice, ou d'autres aménagements par Henri Rapin ou Ruhlmann par exemple, et puis des positions parfois plus intermédiaires, comme celle de Charot justement, qui imagine un bureau bibliothèque qui, dans son essence, demeure assez traditionnelle parce que très luxueuse, avec
du bois,
l'usage de bois précieux. Et dans le même temps, la forme même du bureau, très géométrique, et puis surtout, ce bureau bibliothèque qui est modulable, hein, avec ses bibliothèques, avec un jeu également sur la modulation de la lumière, qui témoigne chez lui déjà de recherches d'ordre fonctionnaliste. Et on a parfois eu tendance à opposer trop radicalement un art déco traditionnaliste et un modernisme radical, alors qu'il y a bien des situations intermédiaires et des porosités, en fait, entre ces deux tendances. Et je crois que c'est cet intérieur de Charot l'incarne au mieux.
Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, toujours un trait d'époque. On est dans les années 20, on a parlé des années folles, Bénédicte Mayer. Il y a la vitesse aussi, hein. Vous avez parlé de l'électricité. D'ailleurs, on va recevoir Michel Pastoureau la semaine prochaine, et le bestiaire de l'art déco, bah, d'une certaine manière, c'est des animaux longilignes, comme, enfin, qui vont vite, en fait, hein, c'est ça, la gazelle, l'antilope, ou le paon, parce que...
Bon, certains oiseaux, mais c'est également la voiture, c'est également l'avion, puisque il y a eu des bons phénoménaux faits du fait de la Première Guerre mondiale, et maintenant, on traverse l'Atlantique avec des paquebots qui sont des ambassadeurs flottants, en fait, du goût nouveau, du nouveau style qui est l'art déco. On se rend très rapidement à Londres en avion, et les avions sont également décorés par des créateurs et des ensembliers français avec des tissus, des fauteuils en osier qui représentent ce goût de l'époque. Et ils sont représentés dans les sculptures, dans le pavillon des renseignements et du tourisme. Les sculpteurs, les frères Martel, réalisent deux grands bas-reliefs dans leur style très particulier cubiste, où l'on voit effectivement un avion, une locomotive, une voiture.
Oui, ben écoutez, on va entendre Ray Manzarek nous chanter Art Déco Fandango, c'était en 1974, et après ça, on va parler de modernité. On a parlé de cubisme, on a parlé de vitesse, on a parlé de modernité. Jérémy Sermant, c'est évidemment fondamental. Dans cette question architecturale, en fait, tout, ils ont tous ce mot-là, ce mot à la bouche, mais ils n'ont pas la même manière, en somme, de le prononcer et de le mettre en espace.
Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que le terme art déco qu'on emploie aujourd'hui, c'est un terme qui n'existe pas à l'époque, qui est une invention des années 60. Donc à l'époque,
ils veulent être modernes.
On parle d'être moderne. Donc c'est un peu à la mode d'être moderne à cette époque-là. Tout le monde veut être moderne, sauf que cette modernité, elle est plurielle, elle se décline de différentes manières, et cette modernité, elle s'incarne tant sur le plan stylistique que dans des choix iconographiques. On a parlé des transports, par exemple. Donc, ce qu'il faut dire également, c'est que sur le modèle de l'exposition de Turin de 1902, l'idée c'était de n'admettre dans cette exposition que des artistes, des œuvres qui se voulaient modernes, c'est-à-dire qui n'étaient pas des pastiches littéraux des styles anciens.
Oui, et pourtant, vous l'avez dit, il n'y a pas de pastiche, mais il y a des citations de l'architecture classique, du 18e, il n'y a aucune copie.
Alors, on peut parfois se poser la question, notamment quand on voit le pavillon de l'Italie, qui est d'un classicisme, peut-être le bâtiment le plus pastiche, on pourrait dire.
Le pastiche de tous les arts italiens.
Et du point de vue, justement, de la modernité des matériaux, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que on a parlé des jardins, on ne peut pas parler tout, mais il y avait aussi cette volonté, beaucoup de choses en bois, tout va être d'une certaine manière, sinon recyclable, du moins démontable. Il y a quand même le souci de ne pas bousculer l'espace parisien.
Il y avait tout à fait.
Y compris les arbres, d'ailleurs.
Y compris les arbres. Il y a une obligation donnée par les organisateurs de ne pas couper ou élaguer les arbres, ce qui fait que certains architectes ont dû construire avec les arbres. Pierre Patou va imaginer un petit pavillon consacré à un matériau qui s'appelle la nacrolaque. Et en fait, c'est un pavillon vitrine, puisqu'il le construit autour d'un immense platane. Mmh. Et Le Corbusier, également, va intégrer un arbre à sa loggia parce qu'il n'avait pas le droit de le couper. Et également, on va construire, alors c'est un moment où c'est le triomphe du ciment armé, du béton armé, mais beaucoup de pavillons mêlent plusieurs matériaux, dont le bois, effectivement. Ce qui est assez étonnant et amusant, c'est que Perret va construire deux pavillons en bois, qu'il va ensuite enduire pour imiter le béton, parce que les organisateurs avaient demandé que si les architectes pouvaient employer des matériaux qu'ils pourraient réemployer ensuite à l'issue de la destruction de l'exposition.
Le Corbusier, le nom est lâché. Écoutez ce qu'en disait Jean Sbrillio, au micro du regretté François Chalin, qui parlait si bien d'architecture, c'était dans Métropolitain en 2001.
Ici, une section tout à fait caractéristique de ce passage à cette modernité, les quartiers modernes Frugès, la Villa La Roche, le pavillon d'Esprit Nouveau de 1925.
Oui, c'est le moment de la révolution architecturale chez Le Corbusier. En fait, on connaît de Le Corbusier sa première période d'architecte en Suisse, où il a réalisé à peu près une dizaine de bâtiments qui sont essentiellement des demeures individuelles, inscrites d'un côté dans la culture classique et d'autre côté dans ce qu'on a appelé le régionalisme jurassien. Et bien sûr, quand il arrive à Paris, commence cette nouvelle période puriste dans la peinture, mais aussi puriste dans l'architecture, puisqu'en fait, il devient rapidement des héros de l'architecture moderne. Et je pense que la Villa La Roche qui se trouve ici est vraiment, les quelques dessins qui sont représentés indiquent assez clairement quelles sont les voies de cette révolution architecturale.
23, hein, Villa La Roche.
Les premières esquisses, effectivement, se datent de 1923.
Donc, il a 36 ans, c'est encore un homme jeune.
C'est encore un homme jeune et il se bat sur tous les fronts, hein, c'est-à-dire il dessine, il peint, il écrit et il compte vraiment tenir cette position de théoricien, parce que vous avez cité Vers une architecture 23, mais je pense que ce qui est significatif, c'est d'indiquer aussi qu'entre 1923 et 1925, et je reprends un terme qui n'est pas du tout de Le Corbusier, qui est Allo Rossi disait à propos de l'architecture de la ville, vers l'âge de 30 ans, je voulais écrire un livre définitif, et il a écrit l'architecture de la ville, et je crois que Le Corbusier s'était lancé un petit peu le même pari, et son idée, 1923 Vers une architecture, 1925 Urbanisme, et 1925 L'art décoratif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il assigne, je dirais, à l'architecture ces trois échelles, de l'objet à la ville, et il pose les bases, en fait, d'une nouvelle théorie de l'architecture.
Alors les trois échelles, ça c'est bien effectivement ce dont on parle depuis le début de l'exposition, hein, le bâtiment, la ville, mais aussi l'intérieur, le mobilier, Jérémy Sermon, mais Le Corbusier, il est dedans, dehors. Enfin, il a effectivement un rapport à la modernité qui n'est pas tout à fait celui de l'exposition. Il y est.
Non, puisque de fait, l'exposition, on l'a dit, s'intitule l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Or, effectivement, ça vient d'être rappelé. Il publie en 1925, la même année, ce texte qui s'appelle l'art décoratif d'aujourd'hui, dans lequel il va rejeter toute notion de décor, hein, à la suite d'un fameux texte Ornement et crime, écrit par Adolf Loos en 1908. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu mis, on va dire, de côté. On a un temps voulu cacher ce bâtiment qui est un petit peu vu comme ce pavillon de l'esprit nouveau, hein, qu'il construit à l'occasion de l'exposition, qui est un petit peu vu comme une verrue et qui clairement dénote, hein, par rapport au reste de l'exposition, un pavillon dans lequel tout est pensé comme fonctionnel, hein. Il va notamment aménager son pavillon avec ce qu'il appelle des meubles types, des objets types, hein, qu'on peut trouver couramment dans le commerce, et puis ces fameux casiers standards qui sont c'est des ça. Casiers modulables, et où finalement il est censé, alors on pourrait en discuter, hein, ne pas y avoir de décor, puisque
c'est
le décor
de l'architecture, en fait, voilà, à l'intérieur du bâtiment, c'est encore
l'ornement est superflu.
Oui.
L'architecture accueille l'architecture.
Bénédicte Mayer.
Oui.
Et Le Corbusier, en fait, présente son prototype d'appartement type que ensuite il imaginait, en fait, reproduire à des milliers d'exemplaires dans son projet de réaménagement du centre de Paris, qu'il présente également à l'exposition 1925 dans son pavillon de l'Esprit Nouveau, puisqu'il est divisé en deux parties. La première, c'est un appartement type, une habitation type, et dans l'autre partie, dans une rotonde, il y a la présentation de son fameux plan d'urbanisme pour Paris, dit plan voisin, puisque c'est l'industriel qui construit les avions à voisins qui finance en fait ce projet.
Et c'est là que cette question, la question de l'art nouveau, effectivement critiquée ou mise à l'épreuve par Le Corbusier, rejoint, je dirais, sa dimension sociale. C'est-à-dire, c'est pour qui ? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde ? Alors Le Corbusier l'espérait, mais on est quand même dans une industrie du luxe.
Alors, Le Corbusier ne fut pas plus pour tout le monde que l'art déco ne fut pour tout le monde. Alors effectivement, alors il faut faire attention parce que cette exposition de 25, elle avait quand même pour objectif de montrer aussi au monde, dans un contexte de concurrence économique, tout ce que l'on pouvait faire de mieux en France. Donc c'est-à-dire qu'on va proposer les intérieurs les mieux faits, hein, les plus luxueux, les plus impressionnants pour impressionner aussi d'autres nations et pour impressionner le public. Donc ce serait, c'est une vision un peu faussée finalement de l'art déco, qui en fait est beaucoup plus divers que cela.
Et parce toutes les grandes enseignes y sont, le Bon Marché...
Exactement. Alors les ateliers d'art des grands magasins, or si les ateliers d'art des grands magasins ont eu l'atelier d'art La Maîtrise des Galeries Lafayette, Pomone du Bon Marché, Studium des grands magasins du Louvre, Primavera du Printemps, si ces grands magasins avaient pour objectif de démocratiser, on pourrait dire, ou de rendre plus accessible cette modernité, les pavillons qui présentent sont très luxueux. En 25, oui. Parce qu'il faut impressionner. Alors que dans leur production plus courante, ils ont pu quand même proposer, non pas des objets pour l'ouvrier, mais en tout cas des céramiques ou des objets que la classe moyenne, tout du moins, pouvait acheter.
Parce qu'il n'y avait pas que les grands magasins, il y avait aussi les boutiques Bénédicte Mayer. On parlait du pont Alexandre III, donc qui redevient, d'une certaine manière, comme au Moyen-Âge.
Comme au Moyen-Âge, avec des boutiques.
Un pont aux boutiques.
Voilà, avec une rue des boutiques, mais il y avait également une galerie des boutiques, imaginée par Henri Sauvage, qui était le long des Esplanades des Invalides.
Ça ressemblait à quoi ?
C'était une grande colonnade avec un portique très élégant. Donc ce portique qui abritait des boutiques qui étaient décorées de motifs floraux, de ce fameux motif très art déco qui est la corbeille de fruits, qui commence à être assez géométrisé dans cette galerie des boutiques. Et chaque boutique pouvait présenter les productions d'une entreprise privée. Il y avait les pianos Pleyel, par exemple, qui avaient des boutiques, il y avait des faiseurs d'étoffes, il y avait des faiseurs de céramique. Et là, on pouvait trouver une production qui était peut-être un peu moins luxueuse que celle qui était proposée par les galeries d'art des grands magasins dans leur pavillon de l'Esplanade des Invalides. Il y avait également des stands de vente dans le Grand Palais, qui proposaient aussi des productions plus abordables. Et les grands magasins, sur certains stands de ces espaces à la périphérie de l'Esplanade des Invalides, proposaient aussi la production dont Jérémy Serment parlait, qui était une production qui était plus accessible à des bourses moyennes.
Oui.
Et je voudrais rebondir sur le fait que l'art déco est souvent perçu aujourd'hui, quand on voit des pavillons comme ceux des grands magasins ou de Ruhlmann, comme quelque chose lié au luxe. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, c'est le développement et la construction de ce qu'on appelait les HBM, les habitations à bon marché, notamment à Paris, sur les anciennes fortifications, tout autour de Paris aujourd'hui, qui les boulevards des Maréchaux périphériques, et qui étaient destinées à une classe moyenne, voire ouvrière, pour pouvoir loger décemment, avec des conditions d'hygiène et de modernité, la population extrêmement nombreuse de Paris. À l'époque, il y avait deux fois plus d'habitants qu'aujourd'hui, autour de 3 millions, avec une grande exode rurale liée à la Première Guerre mondiale.
Et oui, Jérémy Sermant, parce que 1925, c'est aussi contemporain d'un nouvel âge de la consommation, de la publicité aussi, et ce rapport au commerce et à la démocratisation, en somme, des usages sociaux, des objets, c'est très important pour l'Art déco.
Oui, c'est très important, d'autant que finalement, à cette époque, ça reste un art qui est commercial. C'est-à-dire que on va créer, on va produire dans ce qui va plaire au public. Si on crée des textiles ou des papiers peints dans le goût art déco, qui sont des productions plus accessibles, si lorsqu'on construit un immeuble ordinaire, on l'orne de ferronneries qui sont typiquement art déco, et ça, si on lève un petit peu le nez, on voit de l'art déco absolument partout, c'est que cet art s'est diffusé, s'est démocratisé.
Allez, on lève le nez et on écoute Lana Del Rey en 2015. Elle aussi, elle chantait l'art déco.
Club queen on the downtown scene, prowling around at night. You're not mean, you're just born to be seen, born to be wild. A little body never gonna want, that's why it's alright. You want in, but you just can't.
Bonjour Manuel Charpie, vous aussi, Urso Déco, Art Déco, hein, franchement. Alors, les Arts Déco, une géographie?
Eh bien alors,
pour commencer, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette collection bizarre qui s'appelait « La grammaire des styles » et qu'on faisait lire aux étudiantes et aux étudiants, on le fait peut-être toujours lire d'ailleurs, en histoire de l'art notamment. Ça ressemblait à une tentative désespérée de mettre un peu d'ordre dans les formes et de ranger les styles chronologiquement. Mm-hmm. Bon, on l'a vu pour l'art déco, ça ne marche pas tellement, même si on l'appelle le style 1925, ça commence avant, ça finit après. Mais peut-être qu'une lecture géographique pourrait aider.
Enfin, tout se passe à Paris, non ?
Alors, oui, mais avec des origines viennoises, sans doute, en grande partie. Et puis très vite, l'art déco, et on l'a dit depuis tout à l'heure aussi, est un produit industriel qui se diffuse jusque dans les campagnes, un peu à travers l'Europe, où les soupières modernes se vendent très bien. Et je regardais dans le catalogue Manu France, tiré à des millions d'exemplaires. Vous avez en 1920...
Vous regardez souvent, dans le j'ai remarqué, dans le catalogue Manu France.
C'est hein. Un peu ma bible, j'y retourne de temps à autre. Dans le catalogue Manu France, vous avez la chambre à coucher moderne, qui est en style art déco. C'est à la fois moderne, chic, en beau bois, mais pas trop cher, car c'est du plaquage, de la marqueterie mécanique.
Alors ça, il y a ça, mais il y a aussi des produits de luxe.
Et oui, car d'entrée de jeu, l'art déco est un produit d'exportation. L'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 est, comme son nom l'indique, internationale. On y trouve des fabricants européens et des artistes décorateurs, des grands couturiers, des industriels français qui visent le marché du luxe international et notamment les États-Unis. Et ce n'est pas un hasard, on l'a dit aussi, si le pavillon de la Société des artistes décorateurs à l'Expo, le lieu de la démonstration de l'élégance à la française, est le simulacre d'une ambassade française, c'est une fausse ambassade française, c'est une sorte de catalogue en trois dimensions pour l'exportation. On peut aussi penser au film de Marcel Lherbier, L'Inhumaine, en 1924. Et on choisit Georgette Leblanc pour jouer la chanteuse, parce que c'est une vedette aux États-Unis à l'époque. Et puis on peut encore penser au paquebot Île-de-France, par exemple, qui est inauguré en 1926, complètement art déco et qui est envoyé, en quelque sorte, du Havre vers New York pour exporter le savoir-faire français. Il faut dire qu'à l'époque, les articles de luxe sont le principal denrée qui est vendu aux États-Unis par la France, puisqu'on est à un moment où il y a des taxes douanières très très élevées qui ont été mises en place par Harding et Coolidge, deux présidents, oui, ça rappelle quelque chose, deux présidents républicains, ultra-libéraux et en même temps protectionnistes. Et pour vous donner une idée, on taxe la soie, les produits de soie, jusqu'à 90%. Donc, on se concentre sur le luxe. Et il se trouve que le style art déco est très bien adopté par les nouveaux manias de l'immobilier de luxe. Pensez au Chrysler Building, construit en 28, à l'Empire State Building. À chaque fois du moderne, mais dans des matières hyper luxueuses, des bois exotiques, des marbres italiens.
Tout ça, ça compte évidemment les matières hein, pour l'art déco.
Oui, c'est une grande partie du style art déco, le fait de mettre en valeur des peaux exotiques, de la nacre, des plaquages de bois... exotique aussi, importer des Antilles et surtout des colonies africaines. On a beaucoup d'ébène de Madagascar et du Sénégal, du bois de palmier, de l'amarante de Guyane, de la palissandre de Madagascar ou du Brésil. Et c'est d'autant plus fort ce développement qu'il faut avoir en tête que les forêts de l'Est de la France ont été ravagées par la Première Guerre mondiale. Donc on fait venir de plus en plus de bois du Gabon, de la Côte d'Ivoire et tout ça arrive par le Havre. Et c'est pas étonnant que lors de l'expo de 1925, les colonies soient partout. Par exemple, quand on visite le pavillon de l'élégance, de la haute couture française, le sol est jonché de peaux de bêtes exotiques. Et c'est aussi une exposition qui arrive juste après l'exposition coloniale à succès de 1922 à Marseille.
3 millions de visiteurs.
3 millions de visiteurs, un succès énorme et qui fait modèle. Et à côté des pavillons européens, une vingtaine à peu près, on a le pavillon de l'URSS, et puis on l'a dit, le pavillon de la Turquie, de la Chine et du Japon, mais on a aussi des pavillons coloniaux, des colonies françaises. Tout d'abord, le pavillon de l'Afrique du Nord avec des bijoux, des céramiques, des tapis de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Le pavillon de l'Afrique occidentale, une sorte de réduction de la mosquée de Tombouctou et qui abrite en fait aussi les produits de l'AEF de Madagascar et de la Martinique. Une sorte de condensé étrange comme ça. Et je cite le magazine L'Illustration avec des ivoires, des ébènes, des vanneries, des fétiches, des armes, des instruments de musique et des statuettes.
Donc il y a aussi les productions des populations locales qu'on donne à voir.
Oui, puisqu'il y a un pavillon... Le pavillon de l'art colonial, mais en fait, quand on y regarde d'un peu plus près, c'est assez étrange. Le pavillon témoigne d'un travail à l'œuvre qui est l'application du style art déco aux arts indigènes. Je m'explique. On est au moment où se développe le service des arts indigènes qui a été créé dans les années 1910 en Algérie, puis dans les années 1920 au Maroc et en Tunisie. notamment sous l'égide de Prosper Ricard, et qui vise, dans un projet assez étrange, à sauvegarder l'artisanat traditionnel que la colonisation est en train de dénaturer, en quelque sorte, et en même temps, je cite, « d'apprendre le bon artisanat indigène aux indigènes », ce qui peut paraître paradoxal, à la fois pour développer les exportations, mais aussi pour développer le tourisme, puisque c'est un double projet économique. Et l'art déco se marie bien avec l'imaginaire touristique, avec les sculptures en ébène d'Afrique de l'Ouest, avec les tapis et les céramiques aux motifs géométriques du Maroc. En résumé, Patrick,
oui.
C'est un style qui prend ses racines à Vienne.
J'aime bien quand vous m'appelez Patrick, dès que ça devient sérieux et pédagogique. Ouais.
Voilà, c'est ça, pour vous preniez des notes.
Ouais, d'accord.
Voilà. Un style qui prend ses racines à Vienne, se développe à Paris via les produits du Gabon et de Guyane, et rencontre le succès en Europe et aux États-Unis, en même temps qu'il s'insinue au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Ça semble plus clair.
Ah oui, mais tout est toujours très clair avec vous, Manuel Charpie, merci. Oui, c'est donc intéressant de le saisir ainsi, Jérémy, comme d'une certaine manière un art monde.
Un art monde, l'art déco est présent sur tous les continents. Assez clairement, on trouvera de l'art déco en Chine, on trouvera de l'art déco au Brésil, en Inde. Le numéro d'In-Situ que j'ai co-coordonné, que vous avez cité tout à l'heure, en fait, comporte plusieurs articles consacrés également à l'Éthiopie, par exemple. Et alors, ce qui est intéressant également, c'est non seulement un peu partout, mais également voir une extension chronologique dans cette diffusion internationale. C'est qu'on a souvent limité l'art déco à l'entre-deux-guerres. Or, il commence dès les années 10 et dans les années 50, voire 60, on trouve parfois encore de l'art déco un peu partout dans le monde.
Alors ce qui est intéressant aussi, Manuel Charpie, vous l'avez juste évoqué, c'est de saisir cet art qui est quand même un art total à partir de ce film, L'Inhumaine, de Marcel L'Herbier, 1924 je crois. Écoutez ce qu'il en disait dans l'émission Zigzag de France 2 en 1976.
Quant à Malestévin, évidemment c'était déjà un très grand architecte, et il avait une renommée, comme nous en avions tous à ce moment-là, c'était une renommée tout de même très limitée, puisque le gros du public ne nous suivait pas du tout, et Malestévin, ce qu'il voulait construire, et qui commençait à construire ces maisons, qui sont des maisons restées très particulières, eh bien Malestévin se demandait comment il allait se lier avec cette nouvelle façon de sentir qu'est le cinéma, et je lui ai proposé ceci, je lui ai dit « Pourquoi vous ne feriez pas, vous, les façades ?» Les façades parce que ça va très bien avec ce que vous faites, et on pourrait faire des effets d'éclairage intérieur qui donneraient une vie tout à fait supplémentaire à vos façades. Alors nous avons fait comme ça, si bien qu'il y a dans L'Inhumaine des vues qui sont des vues assez exceptionnelles encore maintenant, justement, des façades de Malestévin, c'est même de la construction extérieure du laboratoire de Léger. En somme, Malestévin a enveloppé Léger.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Rappelez-nous, Marcel. Non, vous, c'est pas Marcel. Rappelez-vous, Manuel Charpie, qu'est-ce que c'est que ce film très abstrait, hein,
oui.
Et L'Inhumaine.
C'est un film comme, oui, très étrange. D'abord, c'est quand même vraiment un produit publicitaire qui essaye de présenter tous les grands artisans industriels, etc. Donc, il y a Paul Poiret, Malestévin, on l'a dit. Il y a Fernand Léger aussi qui fait le laboratoire dans le film. Il y a Darius Milhaud à la musique. Enfin, c'est une espèce de produit qui condense tout l'art français, prestigieux du moment. En même temps, ça dure 2 heures, avec une intrigue assez embrouillée, on pourrait dire ça.
Oui, on peut dire ça.
Ça a rencontré un succès assez mitigé, du coup. Mais ouais, c'est une tentative pour condenser ce qui a été dit depuis le début de l'émission, aussi toutes ces modernités en même temps, et de rassembler tout ça dans un espace, dans une sorte d'intrigue. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi le moment où le cinéma devient publicitaire, vraiment. C'est-à-dire que jusque-là, c'est plutôt au théâtre qu'on fait du placement produit, qu'on montre des robes, que les couturiers passent des contrats avec les comédiennes. Là, on rentre vraiment dans un moment où c'est le cinéma qui va prendre le relais en termes de mise en récit et de mise en publicité des robes, des meubles, des décors.
Et Marcel L'Herbier racontait aussi qu'il avait beaucoup sollicité justement Fernand Léger dans son laboratoire et qui faisait les décors, qui sont plus que des décors en somme, qui sont le principal protagoniste de cette intrigue que Manuel Charpie trouve compliqué, mais qui est entièrement fondé, Jérémy Sermant, sur des jeux de lumière, d'ombre, quelque chose de très abstrait.
Oui, alors après, je ne sais pas si c'est complètement le terme. Ce qui est certain, c'est qu'on passe à autre chose après le théâtre. Hein. Effectivement, on n'est plus dans un art théâtral. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi cette collaboration, à peu près dans les mêmes années, entre Malet Stevens et Fernand Léger. Rappelons justement que dans le hall de l'ambassade française à l'exposition de 1925, Malet Stevens va placer non seulement une œuvre de Robert Delaunay, mais également une œuvre de Fernand Léger. Et puis alors la question de l'éclairage, hein, on en a parlé également tout à l'heure, l'éclairagisme. Malet Stevens, c'est quelqu'un qui va beaucoup écrire, qui va théoriser, qui va écrire sur les questions de l'éclairagisme, qui écrit également sur les questions de l'étalagisme, de l'art des boutiques. Cela incarne en fait ces modernités qui sont également plurielles, qui sont en prise avec la société contemporaine. Et évidemment, le cinéma dont on vient de parler en fait partie. Hein. Et on retrouve tous ces acteurs. Pierre Charot aussi hein, participe à l'Ligne humaine.
C'est le spectacle de la modernité, ouais. Bénédicte Mayer. En fait, on parle de cinéma, on parle des théâtres, on a parlé de Joséphine Baker. C'est l'ensemble, au fond, de cette société du spectacle qui est aussi donnée à voir en 1925.
Tout à fait. Et qui va ensuite, grâce à ces supports qu'on vient de citer, s'exporter. Donc effectivement, le paquebot va être l'ambassadeur des décors art déco, mais également le cinéma, puisque à l'exposition, il y a le producteur américain Cedric Gibbons qui vient visiter l'exposition et qui va emporter avec lui à Los Angeles, en fait, énormément d'éléments pour ses décors de films, que ça soit de la vaisselle, mais également des sculptures, des peintures. Il appréciait particulièrement le peintre Dupas. Il va y avoir beaucoup de copies de peintures de Dupas dans ses films. Et comme il y a une production exponentielle à Los Angeles à l'époque, à Hollywood, les Américains vont découvrir très rapidement, dès 1926, notamment à travers les films, en fait, cette modernité, et vont s'en emparer, puisque on va être moderne.
S'exporter, passer les frontières, mais aussi les frontières sociales. Vous y avez fait allusion, Manuel Charpie, la pénétration de l'art déco dans l'ameublement plus ordinaire, les meubles lévitants, c'est ce moment-là aussi.
Absolument. Et ce qui est marrant, c'est que ça rentre très facilement dans les foyers quand ça apporte justement une forme de modernité. Je pense aux meubles de TSF, par exemple, oui. Qui étaient systématiquement en art déco et qui sont entrés très facilement sous cette forme-là. Donc voilà, tout ce qui était lié à des nouveautés techniques. Puis je pense à tout un tas d'objets d'électroménager. Les aspirateurs art déco, ça paraissait naturel. Les grille-pains art déco, ça paraissait naturel.
Les cocottes minutes.
Voilà, les cocottes minutes.
Joséphine Baker a fait de la publicité pour des cocottes minutes.
Et oui, c'est toute cette société-là, Jérémy Sermant, vous enseignez le design à Arras, on l'a dit. C'est lié à, justement, ces objets techniques. Et ces architectes faisaient des paquebots, des cinémas, des immeubles. Mais justement, ils ne dédaignaient pas dessiner des objets techniques.
Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment un art du quotidien. Et c'est pas seulement cette période-là. Ça a déjà été préparé fin 19e, tout début 20e siècle. Où on s'occupe vraiment d'appliquer aussi une esthétique moderne à tous les objets du quotidien. Donc, c'est pas seulement les objets traditionnels du type art de la table, par exemple. À cette époque-là, la société évolue et on va effectivement dessiner tout type d'objet.
Et on en revient pour terminer, Bénédicte Mayer, à ce paradoxe qu'on avait énoncé dès le début de cette émission par rapport aux précédentes expositions, et en particulier les expositions universelles. Il ne reste rien de celle de 1925 dans le paysage parisien, et pourtant, l'art déco est partout.
Et pourtant, l'art déco est partout, et ça a été le point de départ de cette conquête du monde de l'art déco. C'est un véritable paradoxe, mais qui était voulu par les organisateurs. Ça devait être vraiment une exposition éphémère pour laquelle il ne reste rien. Alors, il ne reste rien à Paris, à l'emplacement de l'exposition. Il reste des éléments décoratifs qui peuvent être conservés dans divers endroits, que ce soit des fontaines dans des jardins privés, des peintures comme les grandes peintures de la Cour des Métiers, certains conservés dans des musées, notamment à Reims, et quelques exceptions, notamment avec un pavillon, le pavillon de Mulhouse, qui a été remonté et qui sert aujourd'hui d'une maison d'habitation dans l'est de la France.
remixé Waouh vient de s'ébahir, Manuel Sharpie, ben lui on ne fait rien au hasard, c'est Bart and Baker. C'était Allons-y voir, surtout merci à vous trois, Bénédicte Mayer, Jérémy Sermant et Manuel Sharpie. Les références de vos livres, de vos parutions, des expositions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Alexandre Dang et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.